Là, c'est la dernière présentation. Elle sera assurée par Jean-Marc Roussel. Donc, Jean-Marc Roussel, il est chercheur en écologie fonctionnelle à l'INRA, au laboratoire ESE, donc écologie et santé des écosystèmes. Et il fait également partie de la cellule de coordination. Il pilote la cellule de coordination du programme scientifique Cellune. Donc voilà, je vais te laisser la parole.
Merci Stéphane, waouh, c'est presque la fin de la journée. Merci à tous d'avoir patienté si longuement. Je pense que la fatigue est là pour tout le monde. La faim peut-être d'ailleurs aussi arrive, et ça tombe bien puisqu'on va justement parler de réseau trophique et d'une approche un peu différente de celle qui vous a été présentée jusqu'à présent pour essayer de comprendre quels sont les mécanismes qui président à la restauration des rivières lorsqu'on pratique par exemple ces enlèvements de barrages. Alors, des premières questions qu'on peut se poser, c'est finalement pourquoi s'intéresser aux interactions trophiques. Ça a été un petit peu dit au début de certaines présentations ou en conclusion de certaines autres, mais je le rappelle ici, il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger, certes, mais enfin, la préoccupation majeure de tout organisme vivant, c'est quand même jusqu'à présent, et dans un écosystème a fortiori aussi, de se nourrir. Alors un organisme doit se nourrir, ce qui entraîne évidemment... par cascade, tout un tas de conséquences dans l'organisation de ces communautés aquatiques. Et justement, l'approche qu'on veut avoir ici est bien celle de ne regarder pas uniquement certaines communautés à la loupe, mais bien l'ensemble des communautés en interaction. C'est quand même assez ambitieux, vous allez me dire. Mais on parvient quand même à faire quelques résultats, j'espère intéressants, que je vais vous montrer. Mais avant ça, il va falloir avoir un petit peu de base d'écologie fonctionnelle, des cours d'eau. Je m'en excuse, je vais essayer de faire le plus simple possible. Le concept numéro un de base qu'il faut connaître pour les réseaux trophiques, c'est effectivement en cours d'eau un fonctionnement qui amène vers deux chaînes alimentaires bien distinctes, qui sont les chaînes dites voies algales ou chaînes algales ou green web pour le jargon anglais, ou des chaînes alimentaires plus détritiques, basées sur la litière, et non pas sur les producteurs primaires, comme la première, dite brown web. Et donc, finalement, on voit, de manière assez simple et assez caricaturale peut-être, mais très répétée dans les écosystèmes aquatiques, ce schéma-là se propager d'une rivière à l'autre, même dans les lacs aussi, même en milieu marin également, même si c'est plus compliqué des fois, classiquement, des ressources basales, des consommateurs et des prédateurs. Simple. Alors, en rivière aussi, ce qu'il faut absolument signaler, même si c'est très pâle sur la diapositive ici, c'est qu'on n'est pas sur des écosystèmes qui sont hermétiques. Une rivière est ouverte, par définition. Elle est ouverte à la fois sur le versant, et donc va échanger beaucoup d'énergie et de matière avec les écosystèmes terrestres qui l'entourent, mais également ouverte, surtout dans des cas de petits fleuves côtiers, sur l'océan. Et ces ouvertures vont amener à faire des échanges de matière et d'énergie qui peuvent être importantes sur le fonctionnement justement de nos communautés aquatiques de rivières cibles via les réseaux trophiques. Troisième point que je voudrais signaler et qui nous met vraiment en plein dans le vif du sujet sur les arasements de barrages, c'est la connectivité. Alors la connectivité, on peut la définir par plein d'aspects, mais on peut aussi parler de conductivité fonctionnelle. Et j'aimerais on puisse développer un petit peu ça dans le cours de cet exposé, notamment si on schématise comme ça un cours d'eau depuis ses sources jusqu'à l'océan, on voit que s'exprime une certaine latéralité des transferts, par exemple, le long du cours d'eau entre les écosystèmes terrestres et les écosystèmes aquatiques. Si je prends cette fois-ci une coupe plus en profil de pente, on va voir se rajouter à cette première dimension une dimension d'échange par la dérive de matière organique et de nutriments vers l'aval, mais aussi possiblement des liens avec l'écosystème le plus aval, l'océan, avec des migrations de poissons qui vont remonter les cours d'eau. En fait, lorsqu'on met un barrage, on va par définition interrompre ces grands cycles fonctionnels qui animent le cours d'eau. Ou en tout cas, si ce n'est les interrompre, les altérer. D'une part, on va bloquer les transferts des nutriments marins, ça c'est la théorie qui le dit, si on est suffisamment proche de la mer en tout cas, pour voir ces effets se produire. On va essayer de bloquer forcément le drift et la dérive de nutriments et de matières depuis l'amont. Et puis, on va possiblement aussi générer des nouvelles énergies disponibles pour les biocénoses aquatiques à l'aval des barrages. Alors, l'un des premiers résultats sur lesquels, maintenant qu'on a à peu près assimilé ces bases, un des premiers résultats sur lesquels je voudrais attirer l'attention aujourd'hui, c'est celui de l'altération des réseaux trophiques que l'on a observé sur la cellule à l'aval des barrages. On en a déjà un petit peu parlé, on a dit que dans les présentations précédentes, les barrages jouaient le rôle de décanteurs, de filtres finalement pour les sédiments. Et si vous vous souvenez, ce qu'on a dit sur les premiers concepts d'écologie aquatique et des réseaux trophiques, on a une chaîne alimentaire, la Brown Web, qui est directement connectée à ces matières organiques détritiques. Et ce qu'on observe à l'amont, actuellement, des barrages, c'est justement un fonctionnement du réseau trophique qui est très orienté sur l'énergie venant des sources détritiques, et notamment de la matière organique. De manière assez artificialisée, puisqu'on a filtré cette ressource à l'aval par les barrages, et puisque finalement la nature arrive toujours à s'accommoder de tout, eh bien on observe à l'aval, au contraire, une augmentation de, on va dire, la green web, donc la chaîne alimentaire basée sur les producteurs primaires, ce qui est un écho complet avec ce qui a été dit précédemment, notamment par Christophe, qui montre que sur les communautés d'invertébrés présents à l'aval, on a beaucoup de brouteurs. Et bien, toute la chaîne alimentaire à l'aval devient, de manière un peu artificielle, portée par chaîne alimentaire verte. Deuxième résultat qui me semble intéressant de noter ici, c'est, on a parlé des transferts possibles de nutriments marins vers l'amont par les migrations de poissons migrateurs. On observe tout à fait ça sur le cas de la cellule. Ici, sur ce graphique, vous avez représenté la proportion, finalement, de nutriments marins et azotés, notamment, qui peuvent être véhiculés par les poissons migrateurs. On voit qu'à l'aval des barrages, donc sur la gauche du graphique, que ce soit en rouge pour les poissons sédentaires sur les stations, donc par exemple des chabots, des petites espèces benthiques, mais aussi sur les invertébrés dont on a parlé précédemment dans l'exposé sur Christophe Piscard, ou les producteurs primaires, on a une certaine tendance à avoir plus de nutriments marins accumulés à la base, au pied des barrages, par rapport à la vision que l'on a à l'amont. Et ça, c'est typiquement lié au fait qu'on a une situation assez artificialisée, liée à la présence des barrages. Ces flux qui, naturellement, biologiquement parlant, doivent remonter les cours d'eau, sont bloqués par les barrages. Et un troisième et dernier résultat que je veux vous montrer, il a fallu faire des choix pour cette présentation ultra rapide dans la masse de données qu'on a accumulées, mais celle-ci me semblait intéressante parce qu'elle porte aussi un message un peu d'espoir pour les poissons migrateurs qu'on veut rétablir sur la cellule. En ce sens que, comme je le disais, finalement, manger, c'est vivre. Et est-on certain que nos poissons migrateurs, qui vont recoloniser le cours d'eau à l'amont, vont trouver les conditions trophiques suffisantes pour se développer et avoir des cycles biologiques intéressants et soutenir des nurseries, par exemple, pour les juvéniles de saumon? A priori, oui. L'information est plutôt positive à ce niveau-là, puisqu'on voit une certaine stabilité et importance de la production en biomasse d'invertébrés aquatiques, que ce soit sur le cours principal, la rivière en vert ici, ou sur ses principaux affluents en bleu, sachant que finalement, on a observé par ailleurs, plus il y a une abondance forte d'invertébrés aquatiques, plus on a des biomasses importantes de poissons, puisque c'est la relation assez classique de masse et de biomasse. Si on produit beaucoup de producteurs et de consommateurs secondaires, on va avoir plus de poissons qui peuvent être hébergés dans ces habitats. Donc, un message finalement qui est de dire la cellule va être prête pour accueillir ces nouveaux migrateurs qui arrivent. Quatre consciences un petit peu qu'on peut avoir et des cas d'alerte un petit peu autour de ces résultats. D'abord, je veux parler de ce qui se passe dans la petite baie du Mont-Saint-Michel. Un des travaux qui a été réalisé a porté justement sur cet écosystème très particulier qui est celui de la baie du Mont-Saint-Michel, directement connecté à la cellule, puisqu'on est à l'aval de l'estuaire de la cellule finalement. Et il a été montré que ces zones sont particulièrement importantes pour un certain nombre d'espèces marines, qui ne sont pas forcément migratrices autant, enfin, au terme de ce qu'on a discuté précédemment en tout cas, mais je pense notamment aux bars, et il convient d'être très vigilant sur l'évolution de ces zones de nourricerie de poissons tels que le bar, dans le cadre justement des arasements qui sont en cours et qui se termineront d'ici 2 ans. Donc une vigilance particulière. Il ne s'agirait pas effectivement d'avoir une perte trop importante des habitats et des fonctionnalités de ces zones pour nos poissons marins. Un deuxième signal d'alerte, c'est, ça a été un petit peu évoqué par Eric tout à l'heure, c'est effectivement sur le fait que la colonisation par l'écrevisse des zones plus avales devrait être opérationnelle, on va dire, suite à l'enlèvement des barrages. Donc il va quand même falloir suivre ça de façon précise pour bien renseigner ces phénomènes et éventuellement les impacts que ça peut avoir sur le fonctionnement des écosystèmes. Et puis, ça a été aussi dit, on a des évidences maintenant de présence de silure, hein, donc le silure européen, hein, Silurus glanis, à l'aval des barrages. Alors, on s'en souciait pas trop parce qu'on pensait qu'il était que dans les lacs, mais visiblement non. On pense que des populations sont quand même installées maintenant à l'aval du cours d'eau. On aura l'occasion de le voir, ces zones-là, je pense, pendant les visites. Et là, c'est un intérêt quand même assez important, un signal d'alerte, parce qu'il ne s'agirait pas de restaurer la cellule pour, in fine, ne pas restaurer les populations de migrateurs, mais restaurer au sens premier du terme, manger, restaurer nos populations de silures. Donc voilà, il va falloir qu'on traite ce problème-là à l'avenir. Évidemment, pour être tout à fait complet, je pense que là, nous avons maintenant acquis une base de connaissances assez intéressante et importante, en tout cas, sur le fonctionnement écologique et des réseaux trophiques dans ce cours d'eau et dans ce contexte présence des barrages. Évidemment, l'avenir, maintenant, va être d'évaluer comment ces équilibres écologiques vont être modifiés à la faveur des arasements de barrages. Et la rapidité avec laquelle tous ces processus vont se restaurer. Je dois citer pour finir, je me suis engagé auprès de Stéphane à le faire, qu'il y a 2 projets qui sont en cours ou qui vont commencer pour prolonger ces travaux sur les biosolides aquatiques en général, pas que sur les réseaux trophiques. Un travail sur les comportements de migration du saumon atlantique, qui est fait actuellement par Émilien Lannes, qui travaille dans notre laboratoire aussi, en collaboration avec l'AFB, qui va permettre de mieux caractériser quels sont les mouvements des saumons lors de la migration amont, et on espère une migration facilitée par l'enlèvement des barrages dans quelques années. Et puis un deuxième travail qui porte justement sur ces zones un peu sensibles, notamment qui sont en baie du Mont-Saint-Michel, où il y a donc des nourrisseries de poissons intéressantes d'un point de vue halieutique marin, qui va porter sur à la fois le flet, qui est une autre espèce, un poisson plat présent dans la zone, et également sur les populations d'anguilles dont l'évolution des populations est amenée à évoluer à la faveur, on pense, de l'ouverture des barrages. Voilà, je remercie tous les collaborateurs de ce projet, qui sont nombreux et qui sont en photo ici avec leur prénom. Ils se reconnaîtront, vous les reconnaîtrez peut-être. Et je vous remercie surtout tous de votre attention et d'avoir tenu si longtemps pour cette fin de journée. Merci.